Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Venez de vous lever, si vous nous rejoignez, merci et bienvenue dans Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Nous sommes le jeudi 10 décembre et en attendant les informations, l'actualité, on prend du recul pour parler de culture avec aujourd'hui notre tête chercheuse de la semaine, Nikita Arvitch, historien du chocolat qui nous parle de toute une histoire, celle du chocolat. Aujourd'hui on parlait du chocolat mais au cœur des enjeux géopolitiques. En deuxième partie, on parlera de mode à Dakar en compagnie de mon invité Emmanuel Courrège. Merci d'être sur France Culture. Le chocolat, toute une histoire, par Nikita Arvitch, historien, spécialiste des civilisations d'Amérique latine, membre de l'Académie française du chocolat et de la confiserie. Toute une histoire qui commence avec les Mayas et les Aztèques, on l'a vu lors de notre premier épisode, qui va traverser l'Atlantique avec Christophe Colomb, et puis qui va connaître un essor. Ça, on l'a vu hier. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est au début du 19e siècle, l'industrie du chocolat, Nikita Arvitch, va connaître un essor, mais vraiment fulgurant.
Oui.
Il y a plusieurs fabricants. Il y a plusieurs
fabricants importants, plusieurs grands pays consommateurs et une extension des aires de culture maintenant vers un nouveau continent, vers l'Afrique. L'Afrique s'est intéressée à la production de cacao parce que d'abord le climat s'y prêtait, c'est un climat tropical semblable à celui de l'Amérique tropicale, et aussi parce que la fin de la traite négrière et l'abolition de l'esclavage avaient finalement bouleversé les structures économiques de l'Afrique occidentale et il fallait trouver un produit de substitution. Alors, le cacao apparaissait comme une possibilité, d'abord parce que c'est une culture qui se prêtait bien comme culture d'appoint à une petite propriété locale, autochtone, et aussi l'augmentation de la consommation faisait que c'était une denrée dont le débouché était assuré. Disons que le premier qui a eu l'idée d'emmener le cacao et de le planter dans les îles de la côte du golfe de Guinée, ça a été justement un militaire brésilien qui était lui-même propriétaire d'esclaves et mulâtre, il faut le dire aussi. Ce n'était pas exceptionnel à l'époque, et qui, en voyant la possibilité d'une éventuelle abolition de l'esclavage au Brésil, a eu l'idée finalement d'exporter cette culture dans l'île de São Tomé et l'île de Príncipe, où un esclavage déguisé était encore toléré. Et c'est à partir de là que le cacao a été introduit en Afrique, où il a connu un grand succès parce que justement il présentait un nouveau débouché, une nouvelle culture d'appoint.
Qu'est-ce qui va changer maintenant qu'il y a une nouvelle terre pour le cacao, l'Afrique ?
Alors, ce qui va changer, c'est la variété dominante du cacao dans le monde. Le cacaoyer qui a été introduit en Afrique et qui a essaimé en Afrique, c'est la variété amazonienne, donc la variété Forastero, qui est un cacao, je dirais, plus robuste, plus productif, relativement, mais je dis bien relativement plus résistant aux maladies, mais qui n'est pas aussi fin et aromatique que son homologue américain. Et le cacaoyer forastero, donc produit essentiellement en Afrique, représente à l'heure actuelle à peu près 80% de tout le cacao consommé dans le monde. Et cette domination va s'accentuer tout au long du XXe siècle, qui sera véritablement le siècle africain du cacao, avec des pays comme le Ghana, d'abord le Nigeria, et surtout la Côte d'Ivoire, qui, après la Seconde Guerre mondiale, va devenir de très loin le premier producteur de cacao au monde, produit à l'heure actuelle plus de 40% de tout le cacao produit dans le monde. Très rarement, les grandes entreprises et les grandes plantations vont être sous la coupe des pays consommateurs eux-mêmes. Ça ne marche pas. On s'est aperçu de ça et finalement, on préfère laisser le petit producteur local qui a des réseaux, qui a des techniques de production, qui finalement, je dirais, a fait la richesse de toute une élite marchande africaine basée sur la production de cacao. Et ça, c'est très net au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, le président Houphouët-Boigny lui-même avait des intérêts importants dans la plantation de cacao en Côte d'Ivoire.
Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là en Europe? On a parlé de l'Espagne qui a été la première à importer le cacao, le chocolat, la boisson. Maintenant, elle est dépassée par trois capitales. Londres, on en a parlé hier aussi. Il y a bien sûr Londres, mais il y a aussi la France, quelques villes en France, et l'Italie, notamment Turin. Comment la Suisse va-t-elle damer le pion à ces pays qui étaient déjà lancés dans cette industrialisation du chocolat en inventant la tablette de chocolat?
Alors, la Suisse, comme nous l'avons dit hier, a apporté des innovations techniques qui ont permis véritablement le développement de nouveaux horizons pour l'industrie chocolatière, que ce soit avec la création de la tablette telle que nous la connaissons aujourd'hui, qu'avec celle du chocolat au lait, ou avec celle de certaines friandises de chocolat appelées à avoir une renommée mondiale. Je pense en particulier à cette... Enfin, c'est pas une tablette, mais disons cette friandise triangulaire qui mélange miel, chocolat et morceaux de nougat et qu'on appelle le Toblerone, qui a été créé au début du XXe siècle par la maison Tobler. D'ailleurs, pour la petite histoire, le brevet du Toblerone a été présenté en 1906 à l'Office des brevets de Berne et la légende veut que l'employé qui ait visé le brevet du Toblerone, c'était Albert Einstein qui était à l'époque employé à l'Office des brevets de Berne. Je ne sais pas si l'histoire est authentique, mais en tout cas, elle est plausible.
Demain, on continue notre histoire du chocolat. On parlera du chocolat tel qu'on le consomme aujourd'hui. On se posera la question avec vous, Nikita Harwich, quel chocolat on risque de consommer demain? À demain.
Falta pinta. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui, Emmanuel Courrèges. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste.
Oui.
Et vous intéressez à la mode.
Mm-hmm.
Et pour une fois, on va parler de la mode en oubliant l'axe New York, Londres, Paris, Milan, Tokyo. On va parler de la mode qui se fait dans les autres pays à travers un très beau livre édité par La Découverte, un livre du photographe Daniele Tamani qui, lui, est allé chercher la mode urbaine dans des pays comme Cuba ou le Sénégal que vous connaissez très bien.
Oui, j'ai vécu longtemps au Sénégal.
C'est-à-dire, c'est quoi votre histoire?
Je suis née en Afrique, j'ai vécu 20 ans et entre autres presque une dizaine d'années entre Saint-Louis, qui se trouve au nord du Sénégal, et Dakar, la capitale.
Alors, il y a de très belles photos dans ce livre de Daniele Tamani et tout le chapitre qui concerne Dakar, le Sénégal, c'est vous qui présentez un peu ce phénomène. Et c'est un drôle de phénomènes d'ailleurs, puisque les créateurs sénégalais sont pour la plupart des créateurs de la mondialisation. Hein. Certains d'entre eux ont beaucoup voyagé, d'autres sans avoir à voyager savent très bien ce qui se passe à travers le monde via Internet, via aussi tous les gens qui arrivent, et ils réussissent à faire cette fusion qui respecte tout à la fois les traditions locales et qui marque une certaine ouverture d'esprit pour tous les autres courants de mode.
Oui, vous avez parlé de mondialisation. Effectivement, c'est une génération qui a entre 20 et 35 ans, qui est ultra connectée. Et je crois que leurs créations sont d'abord très cosmopolites et sont une condensation comme ça de culture populaire, de tradition, de ce qui se passe aussi à New York. Elles sont très inspirées par la culture urbaine du monde entier. Et effectivement, ça crée une mode que moi, je qualifie un peu d'alternative, au fond, une alternative entre la mode traditionnelle sénégalaise, qui est jugée probablement par cette génération assez conservatrice, et un autre conservatisme, qui est la mode occidentale, héritée aussi des colons et de la colonisation, et dont il faut aussi peut-être pas se séparer, mais là encore, réinterpréter.
Alors, à propos de réinterprétation, j'ai découvert quelque chose de tout à fait étonnant en lisant ce livre « Global Style Battles » de Daniele Tamani, un ouvrage où vous intervenez pour parler justement de la mode au Sénégal. J'ai appris que c'était un des clips de Beyoncé qui allait relancer une tenue vestimentaire traditionnelle dans les milieux de la mode de Dakar.
Vous voulez alors peut-être plus le wax, le tissu? Oui, c'est-à-dire que le wax jusqu'à il y a 5-6 ans était probablement jugé par la jeune génération sénégalaise comme un peu obsolète parce que porté dans les villages, porté par les femmes peut-être plus appartenant à des couches sociales plus populaires. Et il a fallu effectivement que Beyoncé, sa petite sœur, Solange Knowles, un certain nombre de stars américaines s'emparent de ce textile pour
revendiquer leurs racines africaines.
Pour revendiquer, elles, leurs racines africaines, pour effectivement que ça devienne un produit mode et qu'elles, à leur tour, elles le portent et elles le réinterprètent à leur manière.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un monde de la mode à Dakar comme il en existe un peu partout dans le monde, ou est-ce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Paris, à Milan?
Alors, il y a deux choses. Il y a la mode telle qu'elle est vécue et portée par les Sénégalais, et puis il y a les systèmes de mode, c'est-à-dire l'organisation de Fashion Week, etc. Là, effectivement, il y a probablement un certain nombre de différences. Mais sinon, la mode, elle est à Dakar exactement la même. Enfin, en tout cas, la manière dont on s'habille procède du même mouvement qu'à Paris ou ailleurs.
Et s'il fallait parler justement du circuit de la mode qui est en train de s'installer un peu maintenant à Dakar, avec des têtes d'affiche, avec des gens connus et reconnus dans ce milieu, comment ça se développe?
Ça se développe grâce, alors beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux, un certain nombre de Fashion Week qui sont organisés. Alors je dépasse Dakar, il y a une Fashion Week aujourd'hui qui a 13 ans, 14 ans à Dakar. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette 10e édition de Fashion Week que j'ai réalisé d'abord un reportage pour le magazine Elle et puis ce texte que j'ai écrit pour le livre de Daniel Etamani. Mais il y a aujourd'hui en Afrique une quinzaine, voire une vingtaine de Fashion Week. Je pars bientôt à Lagos au Nigeria où il y a l'une des plus prestigieuses Fashion Week d'Afrique. Donc il y a un système qui se met en place qui est assez proche de ce que l'on retrouve dans les pays du Nord.
C'est-à-dire avec les mêmes enjeux économiques ?
Alors les mêmes enjeux, probablement pas le même poids économique, mais en tout cas oui, les mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'il y a même des acheteurs qui viennent. Là je parle plus du Nigeria, donc de Lagos, de Johannesburg, de la Fashion Week de Johannesburg. Il y a des acheteurs qui viennent de New York, de Los Angeles, des critiques de mode comme Suzy Menkes, de Condé Nast qui se déplacent effectivement et qui sont très intéressés par ce qui se passe dans ces pays du Sud.
Alors, Emmanuel Courrèges, vous avez employé le mot d'alternatif pour parler de ce qui se passe dans ce pays-là, le Dakar. Mais d'ailleurs, dans le livre de Daniel Etamani, on se rend compte que c'est un peu la même problématique dans un pays comme Cuba aussi. Quand vous dites alternatif, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire les canons de la beauté, déjà à la base, ne sont pas pareils qu'ici dans le Nord, par exemple, dans les pays du Nord ?
Alors si, les canons de beauté, vous savez, la mondialisation est un rouleau compresseur qui arrive jusque dans les faubourgs de Dakar. Donc oui, la minceur, des jambes interminables.
On va parler de la minceur, parce que justement à Dakar, il y a deux écoles.
Il y a deux écoles. Alors justement, ça revient à votre question, c'est-à-dire qu'effectivement, on va trouver à Dakar des filles très minces et pour lesquelles c'est absolument essentiel d'être très mince, très grande, etc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la Dakar Fashion Week. Et donc là, c'est la mondialisation. Et puis, il y a ces fameuses Dirianke dont je parle dans le livre, qui sont des femmes plutôt rondes, plutôt fortes, appartenant majoritairement aux classes populaires. Pas que, mais majoritairement. Et il y a même un concours de Dirianke, c'est-à-dire qui s'appelle le concours d'Aoulaba. Alors, Aoulaba, pardon, ça c'est en Côte d'Ivoire. Donc, le concours de Diongoma à Dakar. Et ce sont des concours de femmes traditionnelles. Et je pense que c'est effectivement une manière de résister face au rouleau compresseur de la mondialisation. C'est une forme de résistance.
Une manière de dire qu'une autre beauté est possible.
Exactement.
Une autre forme. Et alors ?
Elles plaisent beaucoup aux Sénégalais.
Est-ce que tous les tissus utilisés par les stylistes à Dakar sont des tissus africains ?
Pas du tout. Non, je crois que ça c'est un gros cliché quand on regarde d'ici l'Afrique, on a l'impression que Afrique égale wax, pagne, tissu bariolé. Quand vous regardez ce qui se passe sur les Fashion Week à Lagos ou en Afrique du Sud, vous avez autant de soie totalement monochrome que de tissus en satin et de plissé qui pourraient renvoyer à ce qu'on voit au Japon. Donc et il y a du wax, mais finalement assez peu, beaucoup moins que ce que nous on peut imaginer en tout cas.
Est-ce que les stylistes sénégalais vivent de leur métier ?
C'est très difficile. C'est très difficile. Alors certains vont, oui, en vivre, mais vont en vivre localement et pas comme les créateurs occidentaux vivent de leur métier. C'est-à-dire qu'ils vont encore être perçus par les populations locales comme des petits tailleurs de quartier chez qui on va. Donc c'est surtout du sur-mesure, c'est-à-dire c'est assez peu du prêt-à-porter. Et on arrive avec son tissu, on les perçoit moins comme des créateurs que comme des petits tailleurs à qui on peut demander de changer la forme du col, la couleur du tissu, etc., etc. Et ceux qui sont vraiment des créateurs et qui font du prêt-à-porter sont encore très très peu nombreux pour ce qui est du Sénégal en tout cas.
Est-ce qu'ils sont obligés de s'exiler pour aller à Milan, à Paris,
non,
à Londres ou à New York ?
Non, pas du tout. Alors, beaucoup voyagent. C'est une génération, je disais tout à l'heure, qui est très connectée. Ce sont aussi des gens qui voyagent énormément. Je parle d'une jeune styliste qui s'appelle Célie Rabikane, qui vit à Dakar, qui produit à Dakar, qui est très inspirée par sa culture, qui métisse énormément les matières, qui va métisser du plastique avec du basin, qui est un textile traditionnel africain, par exemple, mais qui va aussi s'inspirer de ce qui se passe à New York, qui va mais qui n'est pas obligé de vendre à New York ou à Londres pour exister, qui peut très bien exister à Dakar.
Quelles sont les dernières tendances de la mode à Dakar?
C'est très difficile de dire ça parce que je ne pense pas qu'on puisse calquer précisément ce type de modèle. Enfin, nous, on parle de tendances. Je ne pense pas qu'il y ait des tendances.
Les tresses en couleur, de toutes les couleurs, oui. Pour les cheveux, par exemple, ça m'a l'air nouveau, mais peut-être que je me trompe.
Oui, alors ça, c'est assez. Non, c'est un peu plus ancien. Je dirais que, comme vous parlez de cheveux, puis je vous vois avoir, avec le livre ouvert sur une de mes amies, d'ailleurs, une photo qu'a faite Danielle Etamani.
Très belle photo.
De Aïcha Dem, qui est une consultante culturelle à Dakar. Très influente et qui s'habille très très bien et elle porte ses cheveux elle a une boule afro, donc elle a les cheveux naturels et effectivement il y a un vrai retour au naturel et chez les femmes sénégalaises.
Est-ce que ce retour au naturel il transite par l'Amérique noire? Est-ce que c'est la mode des Blacks américains continue à fasciner l'Afrique ou c'est le contraire?
Je crois que c'est le contraire. Oui, je pense qu'il y a eu un mouvement global. Encore une fois, ce sont des gens qui sont très connectés, ils voient ce qui se passe. C'est pas seulement les États-Unis qui ont influencé, il s'est passé beaucoup de choses en France aussi. Le naturel, depuis 5 ans, on voit ici à Paris des salons du cheveu naturel, des salons nappy, des nappy girls. Donc c'est un mouvement beaucoup plus transversal que uniquement émanant des États-Unis.
Alors s'il fallait parler de cette photo de Danielle Tamani, de votre amie Aïcha Dem, qu'est-ce qu'elle porte?
Alors elle porte, alors vous savez, Aïcha est quelqu'un de très qui aime pas s'habiller, mais d'ailleurs comme beaucoup de Sénégalaises, je crois que c'est une de leurs caractéristiques, elle n'aime pas porter ce que les autres portent. Elles aiment se singulariser, être différentes. Donc elle fait faire elle-même beaucoup de ses tenues, même si elle rêve de porter un certain nombre de créateurs africains. Là, elle porte, je vois pas bien, mais je pense qu'elle porte une robe avec un pagne édité d'ailleurs par une société de pagne ivoirienne, si je ne m'abuse, et elle a fait rajouter du raffia sur son petit boléro.
Et puis ce beau sac qu'elle a, juste à ses pieds.
Est-ce que c'est un sac peut-être en raffia? Je ne sais pas, je ne vois pas bien. Oui, je crois que c'est un sac en raffia teint, probablement du Sénégal.
C'est une photo de Danielle Tamani que vous pouvez retrouver à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Aïcha Dem, donc la fondatrice d'une page culturelle à Dakar.
Co-fondatrice de l'agenda culturel le plus célèbre de Dakar, Agenda Dakar.
Ouais, où ça parle de toute la culture ou de la mode?
Non, de toute la culture et de tout ce qui se passe dans l'univers de la culture à Dakar.
Est-ce que Relibet est connue en Afrique ou c'est juste une célébrité française?
Non, je pense que c'est davantage une célébrité française.
Ouais?
Ouais.
Est-ce que d'autres Relibet pourraient venir d'Afrique pour s'imposer sur la scène internationale, comme Relibet l'a fait à une époque, il faut le dire?
Oui, alors il y en a plein. Je pense que la France... pardon de le dire en ces termes, est un peu à la ramasse, est un peu en retard. Je parlais des Fashion Week au Nigeria, des Fashion Week en Afrique du Sud. Sur ces Fashion Week se déplacent des tas de gens des États-Unis, d'Angleterre, assez peu de Français, pour ainsi dire quasiment pas. Et certains de ces créateurs, je pense à la styliste Makio, qui est du Nigeria, je pense à Duro Olowu, je pense à Jewel Bailiza, Lisa Folawiyo, qui sont donc des Nigérians en l'occurrence, voient leurs créations aujourd'hui vendues dans les plus grands magasins à New York ou à Los Angeles. Je pense qu'en France, on a encore des préjugés sur ces modes. Alors c'est vrai que certains, nous on est beaucoup plus, comme la France voilà, est attachée à son espace francophone, on est beaucoup plus en lien avec ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest francophone. Et effectivement, c'est des modes qui sont assez différentes, peut-être pas aussi élaborées que ce qui se passe au Nigeria et en Afrique du Sud. Mais je pense qu'on a quand même encore des œillères et qu'on devrait aller beaucoup plus souvent voir ce qui se passe en Afrique.
Et vous-même qui êtes journaliste et pour les titres les plus influents en France, en ce qui concerne la mode, c'est-à-dire Elle, Vogue, est-ce que vous avez des difficultés à proposer des articles qui parlent de la mode africaine?
Oui, alors pour juste une question, alors en l'occurrence je parlais du sujet sur la Dakar Fashion Week que j'avais fait à Dakar donc il y a 4-5 ans, j'ai fait aussi un sujet sur la Black Fashion Week à Paris. J'ai plus de difficultés quand il s'agit de faire des focus sur des créateurs, c'est-à-dire de parler des créateurs, de faire des portraits. Pour une raison assez simple, c'est que ces magazines sont d'abord des magazines de consommation et que ces personnes n'ont pas de point de vente en France. Et que, voilà, on considère probablement que ce n'est pas très concernant pour la lectrice si elle ne peut pas...
Pas de pub, pas de rédactionnel, c'est ça?
No comment.
Le beau livre de Daniele Tamagni, Global Style Battles, est édité par La Découverte et je vous le recommande vivement pour faire le tour du monde, de l'autre monde, et pour se rendre compte que la mode ne concerne pas seulement Londres, New York, Paris et Milan. On est d'accord ?
Absolument.
On va avoir votre humeur du jour, si vous voulez bien. Tout de suite, avec notre questionnaire, vous choisissez effectivement trois questions.
Trois questions.
Allez.
Alors, est-ce que vous dansez ? Oui, je danse.
Qu'est-ce que vous dansez ?
Je danse. Le zouglou, vous connaissez ?
Non, c'est quoi ?
C'est une danse ivoirienne.
Alors ?
De Côte d'Ivoire.
Ça consiste à quoi ?
Ah, je peux pas. Oh, ça se décrit pas. Faut le vivre.
Mais c'est sportif, c'est il faut.
Non,
qu'il faut faire
bouger. C'est très jouissif, c'est très énergique.
C'est énergique, c'est pas lancinant.
Non, très énergique.
Ça se danse à deux, ou tout seul ?
Non, tout seul.
Comment ça s'appelle, rappelez-moi ?
Le zouglou.
Le zouglou. Deuxième question.
Que lisez-vous en ce moment ? Le livre de Daniele Tamagni.
Celui-là même.
Mais celui-là, parce que je n'ai écrit qu'un chapitre, donc j'ai eu plein de choses à découvrir.
Global Style Battles, oui. Et puis enfin, troisième et dernière question.
Alors, aimeriez-vous changer de ville ?
Ah, vous qui avez vécu très longtemps en Afrique, et vous êtes maintenant à Paris, je suppose ?
Oui, je suis très parisienne, mais je crois que je suis profondément attachée à Dakar et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où j'ai grandi. Donc je ne sais pas si j'aimerais changer de ville parce que de toute façon je navigue toujours entre les trois et que voilà, j'ai pas coupé le cordon. Donc je suis toujours entre ces trois villes.
Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Et vous allez nous faire, bien sûr, comme d'habitude, le générique de fin.
Alors, c'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Théophile Hakem, préparée avec Pascaline Bonnet, prise de son Tristan Gratalon, réalisation Thomas Duterre.
Merci Emmanuel Courrèges. Bonne matinée sur France Culture et à demain.